La question est la suivante, pourquoi est-ce que je suis venu à Bordeaux? La raison est extrêmement simple. Demain, il y a une journée d'études organisée par le père Marc Serre et l'Église catholique ici, au Beaulieu, si j'ai bien compris, sur la déclaration commune sur le salut. Le fameux texte qui a été signé il y a 20 ans, dont je vous reparlerai tout à l'heure, le texte d'accord entre les églises de la Réforme et l'Église catholique, et où on se dit, il y a entre nous un consensus quant au salut en Jésus-Christ. Si on avait pu dire ça il y a 500 ans, les choses auraient évolué différemment. Alors comme je suis un des auteurs de ce texte, on me fait venir à Bordeaux, on en profite pour se rencontrer ici ce soir, et j'ajouterai maintenant deux mots concernant ma personne. Je suis certes, ou j'ai été pasteur de l'ECAL, donc l'Église de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine. À l'origine, je suis mathématicien. Mai 68 a passé par là et nous a conduit à prendre des orientations différentes. Donc, c'était, on s'engage dans l'Église et à fond. Et puis, surtout pas ces métiers bourgeois de chercheur, d'ingénieur ou autre. Et vous voyez bien ce qui vous arrive. Je suis devenu pasteur, et puis après, et c'est ça ce qui va être intéressant pour vous, la Fédération luthérienne mondiale compte 80 millions de luthériens de par le monde, dans 110 églises, et ces 110 églises, il y en a pas beaucoup de ces luthériens en France, il y en a à peu près 300 000, la majorité en Alsace. Il y en avait quelques-uns à Paris et à Montbéliard qui ont rejoint maintenant l'Église protestante unie de France. Et la Fédération luthérienne mondiale a décidé, elle a son centre à Genève, d'avoir un lieu de recherche théologique qui n'est pas pollué par l'administration, où on ne fait que de la recherche théologique, où on fait que des dialogues théologiques avec toutes les églises au niveau mondial. Et ce centre a été institué en 1965 à Strasbourg. Donc c'est en fait le pendant, pardon pour la comparaison, mais c'est exactement ça, du Conseil pontifical pour l'unité qui est au Vatican, ou de Church House qui est à Londres. Ce sont les lieux à partir desquels vous faites le travail théologique, les dialogues. Donc tous les dialogues qui ont été menés dans les dernières 50 années ont été menés à partir de Strasbourg, et Strasbourg travaille avec 2 ou 3 ou 4 chercheurs de divers continents qui font ce travail. Et moi j'ai été appelé là-bas comme assistant en 1975, vous vous rendez compte? Et depuis j'y travaille toujours, tout en étant entre-temps plutôt consultant, je me mets un tout petit peu en retrait, mais je continue à travailler. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est les dialogues entre les églises de la Réforme, luthérien, réformé, anglican, méthodiste, ça c'est une chose, je vous en dirai deux mots tout à l'heure, et puis de l'autre côté, le travail avec Rome. Je ne suis pas très spécialisé, même si je le connais un peu, du dialogue avec les orthodoxes. Mais si ça vous intéresse, on peut en parler, mais c'est pas tout à fait mon domaine. Travaillant là-bas, j'ai été appelé à être professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, où j'ai effectivement été prof pendant 32 ans comme professeur de théologie systématique, avant d'être émérite il y a maintenant déjà 6 ans, et de retourner travailler au centre d'études œcuméniques. Et c'est devenu ma passion, travailler à l'unité de l'Église. Et maintenant, je vous propose une réflexion en 4 points. Le premier point, c'est qu'on va essayer de dire ce qu'est l'œcuménisme. Le deuxième point, où est-ce que nous sommes arrivés? Le troisième point, là où il y a les enjeux classiques qui demeurent. Et le dernier point, ce qui me semble être les nouveaux défis. Parce que la situation change complètement. Et mon premier point, on me l'a de facto imposé il y a une demi-heure lorsque nous avons mangé et lorsqu'on m'a dit au repas, mais en fait, l'œcuménisme n'intéresse plus personne. Et en plus de ça, c'est vrai. Et en fait, vous avez un énorme mérite d'être là ce soir. Alors, c'est fantastique que vous soyez malgré tout venus. Il faut qu'on s'accorde sur ce qu'est l'œcuménisme. Si vous voulez une église une, dans le sens d'une église uniforme, alors effectivement, personne n'aboutira à cela, D'ailleurs, on ne l'a jamais voulu. Et il y a certes une piété populaire qui rêverait unité de l'Église. En fait, il n'y en a plus qu'une d'Église. Ben non, ce n'est absolument pas ce à quoi on a travaillé dans le mouvement œcuménique. Et je voudrais vous raconter une histoire que vous connaissez. Et l'histoire que vous connaissez, c'est l'histoire de la Pentecôte. Vous l'avez lu, acte 2. Et ce qui est formidable, c'est que vous allez avoir des gens qui vont vous dire... Ils parlaient toutes les langues, il y a un genre de Berlitz School avant l'heure, etc. Mais relisez voir cette histoire. Comment entendons-nous l'autre proclamer dans sa langue les merveilles de Dieu? Et alors vous avez, l'époque, le monde est petit. Aujourd'hui, on dirait la Turquie, la Grèce, la Syrie, le Liban, ces pays qui sont tellement souffrants. Évidemment, Jérusalem, vous ajoutez l'Égypte, vous ajoutez la Crète et vous ajoutez le pourtour méditerranéen. Et à la Pentecôte, on s'étonne d'entendre l'autre proclamer dans sa langue les merveilles de Dieu. Moi qui suis de Jérusalem, c'est pas possible que ce chypriote annonce le même évangile que moi, mais dans sa langue. Et l'unité de l'Église, c'est cette altérité. Et puis vous reprendrez, c'est dans le livre des Actes, c'est le chapitre 2, à partir des versets 37 jusqu'à 43, ça dépend ce que vous prenez. Ceux qui étaient réunis reçurent le baptême, ils suivirent assidûment l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la louange et la prière, et ils mettaient en commun leurs biens. Et on appelle ça, dans le livre des Actes, vous allez retrouver ça, en grec, c'est ce qu'on appelle la koinonia. Koinonia signifie communion. Communion signifie rien d'autre qu'unité de l'Église. Une Église extrêmement diverse à la Pentecôte, qui pourtant, chacun dans sa langue, proclame l'Évangile, et ils peuvent se retrouver pour dire baptême, Eucharistie ou repas du Seigneur ou Sainte-Cène, appelez-le comme vous le souhaitez. Enseignement des apôtres, c'est-à-dire prédication de l'Évangile, louange et prière et partage des biens. Et si nous avons un but dans le mouvement œcuménique, je n'ai pas l'intention, pour vous agacer un peu, de devenir réformé. Voilà. Je suis luthérien d'origine et j'ai appris une certaine langue maternelle. Entre-temps, j'ai appris pas seulement la langue réformée, j'ai appris les langues anglicanes, j'ai appris les langues catholiques, et j'essaye de parler ces langues, tout en étant évidemment de langue maternelle, j'en ai une. L'enjeu n'est donc en rien de parvenir à un melting pot où il n'y aurait plus d'identité particulière, mais l'enjeu c'est de parvenir à ce qu'on puisse se dire, tiens, toi, à ta façon, tu proclames le même évangile. C'est ça l'œcuménisme. Et ça signifie, et c'est ce que nous appelons, une unité dans la diversité réconciliée, parce que nous nous sommes condamnés les uns les autres, première chose à faire, c'est que nous passions notre temps à vérifier si ces condamnations s'appliquent toujours. Et au XVIe siècle, on s'y est donné à cœur joie, et à d'autres moments aussi. Est-ce que ces condamnations valent toujours? Alors, je vais en prendre une que vous devriez connaître dans un milieu qui a une tradition plus réformée. C'est la fameuse double prédestination de Calvin. Vous savez que Calvin disait, parce qu'il était tout simplement strict et rigoureux jusqu'au bout, il disait, Dieu sait qui va être sauvé et qui va pas l'être. Il doit le savoir de tout temps, donc il le sait même avant votre conception. Et puis après, ce qui va provoquer... une condamnation du pauvre Calvin qui méritait pas ça, mais ça lui est quand même arrivé. Aujourd'hui, vous ne trouvez aucun théologien réformé qui vous tiendrait ce... Donc, on va pas dire que la condamnation à l'époque était fausse. Moi, j'ai pas à juger les pères, non, il y avait pas de mère. Mais j'ai pas à juger les gens qui ont prononcé les condamnations, mais je peux au moins dire que ça ne touche évidemment plus le partenaire dans l'état actuel de sa doctrine. Et c'est ainsi qu'on a passé notre temps à reprendre toutes les condamnations réciproques, une condamnation vous excommunie, vous jette hors de la communion. Si la condamnation n'est plus, vous êtes à nouveau un Donc, vous êtes de nouveau dans la commune. Et c'est ça ce qu'on a fait. Et maintenant, je vais vous... On prend tout simplement les exemples entre églises de la Réforme. C'est là que les progrès sont incroyables depuis 50 ans. Alors, vous pouvez me dire que l'œcuménisme dort. Moi, c'est très bien qu'ils dorment bien, mais les résultats sont là. Bon, c'était déjà acquis avant les années 70. Moi, le pasteur luthérien strasbourgeois, je pouvais devenir pasteur réformé à Bordeaux. Ça, en France, c'était acquis. L'inverse étant tout aussi vrai. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Depuis 1995, moi, je peux être pasteur chez les méthodistes, j'en sais rien, en Allemagne ou en Écosse. Et je peux être prêtre anglican depuis les accords de Reuilly en 2000. Ce qui signifie absolument pas que je vais aller en Angleterre et leur enseigner enfin la bonne doctrine. D'ailleurs, ils se laisseraient pas faire. Mais il est entendu que moi qui passe d'abord en tant que paroissien la Manche, je m'inscris le plus normalement dans une paroisse anglicane. Elle parle pas ma langue, elle dit pas les mêmes choses que moi. C'est pas tout à fait ma tradition, mais Pentecôte, c'est le même évangile qui est annoncé. C'est ça l'unité de l'Église. Je ne vais pas demander aux luthériens finlandais, si vous y allez, vous avez l'impression dans le monde catholique radical, je ne vais pas leur demander à eux de devenir des réformés portugais, où on a envie de leur dire par moment, soyez un tout petit peu plus libres, voilà. Ben évidemment que non. Ce qui est intéressant, c'est que Jacques Delors, lorsqu'il était président de la Commission européenne, passait beaucoup de temps chez nous à l'Institut. C'était très intéressant parce qu'il nous disait « Les problèmes qui vous intéressent, vous, ce sont exactement les miens. » En disant « Comment peut-on construire l'Europe en respectant les identités particulières tout en ayant, moi j'appellerais ça une communion, lui il appelait ça une fraternité, une solidarité entre les pays qui n'ont en rien à devenir les mêmes. » Et aujourd'hui, nous avions à Strasbourg comme directeur du séminaire protestant, on avait un anglican pendant une petite dizaine d'années, et puis voilà, ma fille qui est pasteur et son mari qui est également pasteur ont été au service de l'Église d'Angleterre pendant tout un temps avant de revenir dans notre Église. Et vous, si vous allez à Birmingham ou ailleurs, surtout ne créez pas votre paroisse. Inscrivez-vous dans la paroisse qui parle un tout petit peu une autre langue que vous, mais qui annonce le même évangile. Et ça, nous l'avons entre-temps, niveau européen, nord-américain, entre les familles de la Réforme. Et si vous avez un succès, ou un succès, c'est pour moi le verre plus plein que vous ne le croyez, de la situation actuelle, œcuménique actuelle. Alors vous allez me rajouter tout de suite, il y a des ombres au tableau, et vous avez raison, les ombres au tableau, ce sont les ombres au tableau que vous avez actuellement dans la société qui est la nôtre. Alors, je ne vais pas commencer par vous raconter que nous sommes dans une crise climatique, économique, migratoire, sociale. Si vous en voulez que j'en rajoute? Bon, on le sait. Ne vous étonnez pas que ça reste aussi et que ce retour identitaire, nous en souffrons aussi dans les églises. Alors que ce soit Orban en Hongrie, ou Salvini en Italie, ou le Brexit, ou rajoutez tout ce que vous voulez, vous avez exactement les mêmes phénomènes, parce que tout simplement nos églises sont incarnées dans la société. L'envie de fermer les portes est extrêmement forte chez nombreuses personnes, mais rappelez-leur qu'au moins entre Église et la Réforme, on est beaucoup. Ceci étant, le grand progrès, et c'est mon deuxième point que nous obtenons avec, qui a été obtenu, je dirais, avec le mot catholique maintenant. C'est donc cette fameuse déclaration. Je ne vais pas vous raconter toute son histoire, mais je veux quand même vous en raconter un tout petit peu quelque chose. La déclaration sur le salut, donc c'est justification par la foi, mot hyper compliqué, qui n'est qu'un mot de Paul, mais qui était cher à Luther. En fait, il faut appeler ça la déclaration sur le salut. C'est ça ce qui est en cause. L'enjeu, c'est Vatican II. Et à Vatican II, il y a un pape, et on va beaucoup dépendre des papes dans ces dialogues. Il y a un pape, Jean XXIII, qui ouvre le concile Vatican II par un discours, le discours d'ouverture, je crois que c'est le 8 octobre 1963, et qui fait une déclaration que les administrateurs du Vatican de passer silence pendant des années. Il dit la chose suivante. Autre est la vérité de la foi, autres sont les formulations dans l'histoire. Ce qui signifie en d'autres termes, une vérité de foi intangible peut être formulée de différentes manières à différents moments. Ce faisant, il a relativisé des formulations qui sont tellement chères aux dogmes. Et puis vous le trouverez, Vatican II par exemple, le grand concile de la réforme au XVIe siècle, 1230, se tient aux environs maintenant des années, 1550, ça va de 142 je crois jusqu'à 1563, qui va condamner la réforme de bout en bout. Mais le grand concile, le concile Vatican II, dans une note de bas de page de concile, ça vous montre combien ce qui est pour des protestants presque normal, combien en fait dire d'une affirmation de la foi qu'elle peut pas être relativisée, mais qu'elle s'exprime différemment selon. Et alors vous avez en 1966, c'est le 18 avril, que c'est à Strasbourg, dans la maison qui est notre centre de recherche, Fédération luthérienne mondiale. Vous avez donc, c'est le cardinal, c'est là c'est Béac, le cardinal Béac, et puis c'est Monseigneur Willebrands qui deviendra cardinal Willebrands, quelques autres autorités. On décide d'un dialogue mondial pour essayer de voir où est-ce que nous en sommes. Et alors ce dialogue, décidé en avril 66, commence en 67, et la question qui est, la question à 1000 euros, combien de temps faut-il pour se mettre d'accord sur la compréhension du salut? 2 jours. Après 4 siècles et demi, il faut 2 jours pour qu'on formule la chose suivante. Il y a un large consensus dans la compréhension. C'est le résultat de la toute. Et c'est publié en 1972. Et vous êtes, c'est assez invraisemblable. Et puis pourquoi? Parce que tout simplement le monde a changé. Et parce qu'on n'en est plus, après Vatican II, à une époque où on va compter vos péchés et on va dire, et pour ça, il faut tant et tant de sang versé, et là, tu feras une année de purgatoire ou t'en feras une de, etc. Tout ce système, surtout le système où on veut le prêtre, complète le sacrifice de manière sanglante, mais il fait la... C'est le concile de Trente. Tout ça, c'est... On n'en parle plus. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que les traditionnalistes vont réagir. Donc, on est dans la situation où, le plus normalement du monde, dans une église catholique, on proclame l'évangile du salut gratuit en Christ. Et l'Eucharistie, c'est quoi? C'est le fait d'être invité à cette table. On n'ajoute rien, on ne refait rien de nouveau. On fait tout simplement ce qu'on appellera une anamnèse. Anamnèse, ce n'est rien d'autre que toute prédication. Voilà le texte biblique, voilà notre situation, et on fait coïncider les deux choses. Et voilà. Après, vous allez avoir un dialogue sur l'Eucharistie qui se termine en 78 par un grand texte sur le repas du Seigneur. Donc, Eucharistie, le mot est un peu piégé. Donc, on préfère parler avec l'apôtre Paul du repas du Seigneur. Sainte Cène, ça aussi, c'est piégé. Donc, le repas du Seigneur, on constate que la question n'est plus une question séparatrice entre les églises de la Réforme et Rome. Mais il y a le ministère, et ça vous l'avez en 1981, dans un document, le ministère constate, et là, les ministres ne sont pas en communion avec de Rome, ne sont pas, donc là reste un majeur, pour laquelle ce que ça ne célèbre n'est pas une Eucharistie, on ne veut pas du Seigneur, ils n'ont pas les moyens de la, ça c'est fixé en 81, ça on le sait. Et maintenant, vous allez avoir un pape, un autre, c'est plus Jean 23, et le pape qui va maintenant se lever, et qui va dire, si tout ça c'est vrai, moi je ne veux pas sortir du millénaire sans avoir réglé le problème. Il faut qu'on se dise clairement que nous proclamons le même salut en Christ. Alors il s'en va à Niederaltaich, à Stern en Allemagne, en 1981, et là est institué un groupe de théologiens, Pannenberg protestant, luthérien, Karl Lehmann, le futur cardinal de Mayence, le catholique, et ils étudient les condamnations du XVIe. Vous l'avez, c'est Pulsion du Cerf en 1906, les anathèmes du XIIe siècle sont-ils encore actuels, et ils concluent, il reste un problème sur les ministères, mais à propos du salut, la question est réglée. Même chose se fait aux États-Unis. Nous, dans le dialogue, on nous dit, vérifier les choses sur la base des résultats, je dirais décentralisés, sur la base des résultats décentralisés. J'ai écrit un dernier document qui s'appelle Église 193, et puis on décide, on a 5000 pages de documents. On va évidemment pas demander aux églises de recevoir des textes pareils, ce sont des textes de théologiens, ce sont des textes de techniciens, des textes professionnels. C'est comme ceux qui conçoivent des ordinateurs. Il n'y a aucune raison que vous sachiez tout ce que vous savoir. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est d'avoir un petit logiciel face à la synthèse et qui n'est plus un texte des théologiens. Ce que nous, on a écrit, c'est notre travail technique. Maintenant, un bref texte, 4-5 pages, dans ce cas 44 paragraphes, qui vont être approuvés par les synodes et par Rome, qui vont tout simplement lever des condamnations et déclarer la communion. Alors ça commence en 94-95, un premier texte déchiré, plus rien n'est resté. Une deuxième version, une troisième version, une quatrième version. Et puis avec ça, après la quatrième, on s'en va. Côté luthérien, on a quand même 108 synodes à consulter. Est-ce qu'on peut signer? À Rome, c'est plus simple, il suffit d'une seule signature. Voilà. Mais la signature de Rome est conditionnée par le cardinal Ratzinger, qui avait travaillé avec nous, on a vu régulièrement, en fait acquis, mais la commission pour la doctrine, la congrégation pour la foi, va mettre Ratzinger en minorité en été 98. D'ailleurs, nos relations sont suffisamment bonnes pour qu'on lui mette 90. Écoutez, n'y allez pas trop vite, hein, ne soyez pas trop euphoriques, il va y avoir un veto de Rome, 98. Il y a le veto de Rome, qui est d'ailleurs très largement conditionné. Ils disent, nous, on connaît les protestants, ça, c'est surtout pas, les pentecôtes, je sais pas quoi, voilà. Alors, il y en a un qui va passer outre, complètement fou, mais c'est comme ça, c'est Jean-Paul II. Et Jean-Paul II qui va dire, cette déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi ne me convient pas. Et donc, alors, on fait ça avec beaucoup plus de diplomatie que ça, hein. Moi, je suis diplomate à ce niveau. Et il met une petite commission et il dit, il y a les 4-5 points que la Congrégation pour la doctrine de la foi considère comme n'étant pas bons. On va essayer de les corriger dans un appendice. Il y aura un petit appendice à la doctrine. Ce sera signé en octobre, le 31 octobre. Alors là aussi, vous pouvez maintenant me dire, oui, mais nous, on connaît des cathos qui, et puis on connaît des pros qui, etc. Je dois vous dire que ça m'est relâché. Je trouve ça fantastique où on a pu se dire officiellement que la problématique du 16e siècle à propos du est aujourd'hui. Alors les méthodistes mettront un peu plus longtemps, ce sera en 2006. Vous êtes tombé dedans par hasard en fusionnant avec dans l'Église protestante unie de France, vu que tous les textes signés par les uns valent à présent aussi par les autres. Bon, donc en fait, on vous a rien demandé, ce qui est pas très gentil. Et c'est la raison pour laquelle donc la signature au Sommet mondial est intervenue en 3 ans, en 17. C'était d'ailleurs en octobre, il y a une célébration à Lyon, comme les 20 ans de la déclaration qu'on marque le coup. Alors que veut dire ce texte? Ce texte, tout simplement, que nous avons un consensus, mais que ce consensus ne signe en rien une union. Et moi, je dirais les choses autrement que ne le dit un catholique, mais je les dis aussi autrement qu'un luthérien finlandais ou autrement que quelqu'un d'autre. Mes chers amis, regardez voir l'écrit. C'est jamais rendu que Jean ne disait pas les mêmes et que Marc et Paul d'une manière différente. Et c'est ce que nous appelons. On l'a appelé longtemps le consensus différencié, c'est une expression de chez nous, mais on l'a entre-temps, moi je parle à présent du consensus différenciant, et que c'est de la tétrapilosée, vous avez coupé les cheveux en quatre, hein. ce qui n'est pas mon projet, mais ce qui nous arrive, c'est consensus différencié. On s'est fait avoir, en fait, même par des autos qui nous ont dit, oui, c'est un consensus qui est à 90% pour les uns et à 10% pour les autres, donc c'est très différencié la manière dont on le... Non, c'est un consensus qui inclut la différence. La différence fait partie du... Moi, je ne suis pas là pour... L'uniformité, c'est la caractéristique des cimetières, mais pas de la vie. Moi, je suis, Dieu merci, pas tout à fait le même que mon épouse. Ça nous permet précisément de vivre ensemble. Il y a des manières différentes d'être, il y a des manières différentes, tout simplement, heureusement, nous vivons de l'altérité. C'est pour ça le consensus différenciant. Et nous l'avons atteint. Donc, maintenant, je ne vais pas vous redire tout ce que fait les autres églises. Ça marche nettement moins bien, le dialogue avec les autres. Mon troisième point, c'est maintenant de vous dire, parce que ça vous intéresse peut-être aussi, où est-ce que vous avez des ennuis, où est-ce que ça bloque. Moi, je vais vous donner les deux blocages. Il y en a deux, un du côté des églises de la Réforme et un du côté catholique. On va d'abord commencer par le côté Église de la Réforme. Et moi, je peux, par exemple, dire qu'il y a un an et demi, c'était en septembre 18, nous avions à Bâle la grande assemblée européenne des églises signataires de la Concorde de Leyenberg. C'est très technique, c'est luthériens, réformés, méthodistes, en partie les anglicans, qui nous déclarons en communion avec les hommes. Alors la question était posée, comment est-ce que nous allons continuer? Et l'idée d'un synode européen était posée, c'est d'ailleurs la deuxième fois, on l'avait déjà une fois posée à Belfast en l'année 2001, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un endroit où sur des points précis, on dise au nom des églises, voilà ce que nous pensons. Avec des problèmes éthiques divergent. Ordre, on sait tout de suite ce que dit l'église catholique, et les protestants, bon, du moment que vous avez 10 personnes, il y a 11 opinions. Donc ça c'est... Et de ce fait, on ne sait jamais quelle est cette identité-là, quelles sont nos options éthiques, quelles sont nos options. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un synode et est-ce qu'on pourrait pas avancer pour qu'on s'engage les uns vis-à-vis. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que pareille proposition rencontre comme opposition. Et l'idée même, on appelle ça en théologie la catholicité, qu'on puisse parler en notre nom à un niveau national, voire continental, est une chose qui est pratiquement impossible. Puis ce sera toujours, nous, au niveau local, on veut avoir le dernier mot, bien que la plupart des églises fonctionnent comme d'ailleurs les PDF. Vous avez un synode régional, un synode national, et puis avec quand même la parole du conseil national qui vaut alors pour tout le monde. Vous dire que dans d'autres traditions, plus chaque paroisse est absolument autonome et personne ne peut rien imposer. Alors, le côté catholique s'en fout trop. Là, vous ne pouvez rien dire parce qu'il risque de vous faire taper sur les doigts. Et puis, de l'autre côté, il y a un déficit à ce niveau-là qui est tout à fait évident. Et alors, le problème du côté catholique va être le suivant. Est-ce que du côté catholique, on ne pourrait pas considérer qu'une autre communauté est Église? Alors là, ceux qui sont professionnels parmi vous le savent. On a signé la déclaration sur le salut en 99. Ratzinger ayant eu des problèmes, à l'époque il est papa, c'est pas Benoît, il est encore cardinal, ayant eu des problèmes avec la congrégation pour la doctrine de la foi, il y a toute une opposition interne dans l'Église catholique contre ce texte, en disant si vous affirmez d'autres qui proclament le salut en Christ, en fait vous les reconnaissez comme Église. 9 mois après, le temps qu'il faut pour une bonne gestation, vous avez le papier Dominus Iesus, qui traite du rapport aux religions, mais comme ça, en passant, le genre de cavalier comme on les trouve à l'Assemblée nationale, en passant, les autres communautés chrétiennes ne sont évidemment pas églises au vrai sens du... Et ça, c'est ad intra, pour calmer son monde à lui. Donc, parce que la question est posée, est-ce qu'on peut être église autrement que dans la communion avec l'évêque de Rome? Et ça, c'est le problème majeur sur lequel nous travaillons. Et maintenant, ce serait une énorme erreur que de croire que c'est une affaire de mauvaise volonté ou de bonne volonté de Rome. Ce qui est en cause, ce n'est rien d'autre que l'unité de l'Église en communion avec l'Église. Du moment que vous pouvez dire, tiens, toi le réformé, ou toi le luthérien, ou toi l'Église, etc., vous êtes à votre façon une expression authentique de l'unique Église du Christ, si vous pouvez dire ça, vous relativisez par là même votre propre institut, votre propre expression. Et si vous relativisez votre propre expression, ça signifierait entre autres que tout le système hiérarchique ministériel pourrait, d'ailleurs pas pourrait, s'en trouverait relativisé. Donc ça provoquerait d'énormes problèmes internes. Et ça vous le voyez, écoutez, j'ai suivi l'actualité de hier et d'avant-hier, vous avez compris que... Il y a un pape qui pense autrement qu'un autre, même si après il dit qu'il n'a pas dit que, et puis pourtant, et c'est, voilà, les tensions internes les plus vives. Et en ce sens, Il est vrai qu'en ce moment, nous n'avançons que très peu, mais nous n'avançons que très peu parce que chacun d'entre nous a des problèmes internes relativement importants. Et on sait que si on avançait plus vite, et entre responsables d'église et théologiens, on est nombreux à dire qu'on pourrait avancer beaucoup, mais même les plus hautes instances romaines, mais on sait parfaitement qu'on a des problèmes ad intra. Et là, pour conclure ce point qui est un peu plus, je dirais pas négatif, mais un peu problématique, notons quand même que c'est François qui est allé à Lund pour l'ouverture de l'année Luther. La célébration officielle pour l'année Luther a été ouverte le 31 octobre 2016. C'est parce que c'est 31 octobre 16 à 31 octobre a été ouverte par le pape François à Lund, ce qui n'est pas tout à fait. Et puis vous avez d'autres signes. Sachez que vous voulez vraiment que je vous fasse un débat sur le côté conservateur de la jeune génération. On me dit que les jeunes générations ne sont pas là parce que les jeunes générations ne sont pas intéressées par le culte. Attendez voir. C'est peut-être pas ça le problème. Vous avez probablement une orientation de ce qui est tout simplement beaucoup conservatrice. Moi, mon problème d'enseignant pendant 40 ans maintenant, c'est pourquoi j'ai pas réussi à ce que les personnes plus ouvertes s'engagent à fond dans l'église et que ce sont souvent les personnes plus conservatrices qui, elles, par contre, ça, c'est une de mes grandes questions. J'ai pas de réponse, mais je me rends compte dans toutes nos familles. Maintenant, je voudrais, dans un quatrième moment, vous citer ce que je considère comme étant les défis actuels que nous avons à relever et qui sont plus du tout les défis que les défis classiques de l'œcuménisme où maintenant, est-ce que vous êtes sûr que le ministre fait ceci ou cela et l'Eucharistie, etc. On peut en parler, mais c'est pas là que ça se joue ensemble. Donc, vous en avez trois. Et le premier défi, c'est l'évolution sociologique. Et détrompez-vous, nous n'avons encore rien vu avec ce que l'Internet, les nouveaux médias et ces données-là vont avoir comme conséquence au plan ecclésial. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Moi, j'ai mes idées à moi. De toute façon, j'ai raison. D'ailleurs, mes petits copains dans mon réseau Twitter pensent comme moi, donc on a la vérité. Je ne dépends plus des grandes familles traditionnelles ecclésiales. Nos villages ont disparu. Nous avons un tout autre système de relations humaines. Nous sommes dans une situation d'autonomie. Et maintenant, moi, je me rattache tout simplement au groupe spirituel qui correspond le mieux ou le plus à ce qui me fait plaisir. Et l'appartenance traditionnelle à une église disparaît au profit d'un tout autre type d'appartenance ecclésiale. Et en ce sens, les dialogues entre nos églises, qui étaient fondamentaux, et nous avons, à mon avis, effectivement réglé beaucoup de problèmes, mais ces questions-là ne sont plus les enjeux des personnes qui sont autour de nous et qui, du moment qu'ils se sont convertis, pour prendre un mot fort, aussi avoir un mot plus faible, du moment qu'ils s'engagent pour l'Église, s'engagent là où ils se sentent à l'aise. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le milieu hospitalier à Strasbourg, mais le milieu hospitalier à Strasbourg a une paroisse le dimanche matin qui fait à peu près 150 personnes, mais ces personnes, vous leur dites, vous n'allez pas dans vos lieux d'Église locaux, dans vos villages, dans vos quartiers. Ça existe encore, ce truc? Nous, on est entre personnel hospitalier. Dans ce cas, ça a un côté un peu plus charismatique. Et vous avez ce genre, vous avez une toute nouvelle composition ecclésiale. Je pense que vous avez pareil à Bordeaux. Vous devriez, donc on est dans une situation qui est à l'image de la révolution culturelle que nous sommes en train. Donc je ne suis pas prophète, je ne sais pas ce qu'elle va donner. Moi, je voudrais simplement vous rappeler que, mis à part ceux d'entre nous qui vénèrent Saint Luther, Saint Calvin et Saint je sais pas qui du XVIe siècle comme étant les grands sauveurs qui ont changé le monde, attendez-moi, le XVIe siècle, Gutenberg, après, Copernic, Christophe Colomb, Magellan, Léonard de Vinci, François Ier, Michel-Ange, donc Rabelais, tout ce monde-là, c'est dans les mêmes 40 années. Et là-dedans, vous avez aussi un phénomène religieux lié à Luther, Calvin et aux réformateurs. Et en ce sens, vous avez une révolution culturelle majeure qui se passe à la sortie du Moyen-Âge. Et puis, ben voilà, ça va tout changer aussi au niveau religieux. On mettra du temps à le digérer. Par moment, j'ai tendance à dire que nous sommes aujourd'hui à la veille de la même chose. Et là, ce n'est plus l'écrit imprimé qui est tellement important pour nous autres dans nos traditions, mais on a passé à de tout autres moyens de communication, et comment ça va être, je ne le sais pas, mais je me rends simplement compte qu'il faut que nous changions nos logiciels. La deuxième chose qui me semble à l'heure actuelle importante, c'est l'apparition de ces nouvelles communautés, c'est d'ailleurs en lien avec le premier type de communauté. Alors là, je l'ai raconté déjà tout à l'heure, on vous dira les évangéliques. Il y a ce qu'on appelle les églises évangéliques traditionnelles, baptistes, certains pentistes et autres, les ménonites, tout ça, c'est clair. Ces églises sont dans un nombre, leur nombre n'a pas bougé dans les 50 dernières années, même si elles ont un grand turnover. Il y a beaucoup de monde qui vient et qui repart, etc. Ce qui est beaucoup plus important, ce sont toutes ces nouvelles communautés qui ne veulent se rattacher à personne. Et vous avez... Donc, qu'est-ce qu'on m'a dit tout à l'heure au repas? 40 communautés à Bordeaux qui n'appartiennent à aucune église dénominationnelle. Donc, pas catholique, pas luthéro-réformée, église unie, et pas non plus ces églises évangéliques, mais de tout autre groupe. D'ailleurs, très largement et très souvent, ce sont des groupes qui sont des groupes que moi j'appelle transconfessionnels. Si vous prenez comme des verticales, les familles traditionnelles, donc catholiques, orthodoxes, luthéro-réformées, etc. Ce sont des transconfessionnels, c'est-à-dire ce sont des horizontales, recoupent partout, où il y a des gens qui se retrouvent, qui ont tout simplement des intérêts communs, des visions idéologiques communes. Le monde catholique vous dira aujourd'hui qu'un cinquième niveau mondial des catholiques, fidèles à Rome, ont une spiritualité de type. Moi, je peux vous dire pareil, parce que ce sont les lieux que je connais, Kenya, Tanzanie, et qui sont de grosses églises luthériennes, c'est une spiritualité entièrement propre. Et pourtant, ils sont luthériens. Mais ils ont aussi un côté propre. Vous avez la même chose avec des églises conservatrices, et vous êtes tout simplement dans une situation où, une fois de plus, ce ne sont plus nos vieilles identités ecclésiales qui prévalent, mais ce sont des identités... Alors en France, on appelle évangélique tout ce qui n'est pas catho. C'est ce qui est fondamentalement faux, parce que ces divers groupes entre eux n'ont pas grand-chose en commun. Et ça aussi, je vous disais déjà tout à l'heure, moi j'ai un collègue qui était prof de philo à Strasbourg avec moi, mais qui était donc catholique, mais qui est retourné dans son diocèse en Bretagne, et qui me disait le matin, dans les délégués à l'œcuménisme, le matin j'ai 300 personnes dans la cathédrale, l'après-midi, il y en a 800 dans le groupe, alors évidemment, évangélique. Alors on l'a dit, mais ce ne sont pas des catholiques. Tout ça, ce sont des catholiques ou des gens qui ont un jour été baptisés catholiques, qui maintenant tout à coup reviennent et se convertissent, là aussi prudents avec eux, et qui finissent par faire église, mais à eux tout seuls, ils ont besoin de personne d'autre. Et donc, si moi j'en crois, donc c'est Franck Lemaître qui est le patron de la revue Iskina, qui lui me dit qu'il y a à peu près 2,5 millions de membres dans ces communautés, de ces catholiques qui ont quitté, mais qui n'ont pas pour autant, qui sont revenus à une certaine spiritualité. Et là, tout ça, c'est Claude Dagens qui a fait ça à Angoulême, qui est responsable, je crois, tout ce qu'on appelle les recommençants, non? C'est Dagens qui a fait ça, non? Et enfin, le troisième défi, et avec ça je m'arrête, le troisième défi, ça, c'est les questions éthiques. Et là, on n'a encore rien vu. Et nous sommes complètement désarmés. Nous avons de plus en plus de questions éthiques qui deviennent séparatrices des vies. Alors, évidemment, la question éthique par excellence, parce que tout le monde en parle, c'est l'homosexualité. Et alors là, comme quoi les protestants marieraient ou feraient des mariages de gens de même sexe. Juste en passant, hein, moi, j'ai jamais marié personne. Pour le mariage, ils n'ont pas besoin. Seule chose que moi je fais, c'est que je bénis une aidante. Ce qui est tout à fait autre chose que de faire un mariage dans la compréhension catholique. Alors, n'empêche que ça suffit. On est Le monde anglican a explosé à cause de problématiques. Le monde méthodiste est sur le point d'exploser à cette problématique. Donc là, c'est une affaire de malheureusement de quelques mois entre les États-Unis et l'Europe chez les méthodistes. Et nous, dans le monde luthéro-réformé, on veut pas se le dire, mais moi, je peux vous dire que les églises, précisément que je disais tout à l'heure, Éthiopie, Tanzanie, Kenya, ont dans leur synode décidé de rompre la communion. Mais là, sont les luthériens avec les églises luthériennes scandinaves qui ont une toute autre attitude face à l'homosexualité. Alors nous, on travaille ce problème, on discute avec les uns les autres. Moi, mon problème, c'est pas d'être pour ou contre, ça, c'est pas du tout la question. Toujours que Jésus n'est jamais intéressé à une vie particulière, excepté l'argent. Il condamne l'argent. Mais, hein, le pouvoir et l'argent, voilà. Mais même pour la femme adultère et tout ça, il passe pas son temps, il s'intéresse à la personne et pas à la... C'est ça ce qui est intéressant. Mais, donc moi, j'ai pas à dire je suis pour, contre, je sais pas quoi. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je serais et pourquoi je ne serais pas. L'enjeu, c'est de dire, est-ce que vous pourriez peut-être, en Scandinavie, accepter que ces églises-là, qui sont d'ailleurs confrontées à des populations musulmanes très fortes, où l'homosexualité n'est pas envisageable, est-ce que vous pourriez concevoir que dans leur pays, le font à cette, ils réagissent d'une autre manière que vous? Et les personnes de ces pays, est-ce que vous pouvez concevoir qu'en Scandinavie, autrement? C'est d'ailleurs intéressant. Ces pays-là peuvent concevoir que dans d'autres pays, ça se passe autrement. Les Scandinaves sont beaucoup, lorsqu'on leur demande d'accepter des pays, peut-être. En tout cas, on est en plein dans un énorme conflit, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Derrière tout ça, vous avez toute la problématique de l'euthanasie, la problématique de l'intervention dans le bagage génétique. Tout ce qui concerne la vie et la mort, vous êtes en plein dans un problème qui devient séparateur des deux. Et vous retrouvez d'ailleurs ces strates transconfessionnelles, les conservateurs évangéliques, catholiques, etc., se retrouvent assez rapidement dans... Il y a d'autres enjeux éthiques qui, en ce moment, ne sont pas mis en exergue, mais je pense qu'ils le seront, et j'espère d'ailleurs que ça ne le sera. C'est tous les enjeux climatiques. Je crois qu'il faudrait à tout sur les enjeux climatiques reviennent beaucoup, beaucoup, en disant qu'il y a certaines attitudes qui ne sont tout simplement pas... Mais ça, c'est, je pense, en tout cas, on sent déjà venir ce genre. C'est ça les trois enjeux. L'évolution sociétale, l'apparition des nouveaux mouvements, et puis troisièmement, les enjeux. Voilà, c'était mon quatrième point. Maintenant, je vous ai dit plein de choses. Maintenant, c'est à vous de parler.